Ces deux extraits de la Genèse et de l'Évangile de Marc, vous les connaissez, pour les avoir déjà entendus, peut-être même lus dans votre Bible. Ils nous permettent à la fois de clore le temps de la création, qui a commencé début septembre, et de continuer notre réflexion autour de ce grand sujet qui interroge nos relations d'êtres humains avec nos semblables et avec toute la création, toutes les créatures. Je sais bien qu'en rappelant cette commune origine et destinée de toutes les créatures, le fait d'aborder l'écologie et l'environnement avec un regard biblique provoque parfois certaines éruptions négatives chez certains, des contestations, des haut-le-cœur, et que d'autres attendent plutôt des actions concrètes, qu'on se bouge un peu. Or, un culte ne me semble pas fait seulement pour nous satisfaire nous-mêmes de là où nous en sommes, mais il est aussi vécu pour nous aider à partir d'un endroit pour arriver à un autre endroit. Et peut-être avec le souffle du Seigneur qui vient remplir alors son rôle de nous rapprocher de Dieu et les uns des autres. La première parole publique de Jésus selon l'évangile de Marc, c'est d'encourager les gens à se convertir, à changer d'avis, à sortir de leur ghetto pour entrer dans le règne de Dieu. Marc 1, verset 15. Alors que nous soyons sceptiques ou prêts à tout, puisse le Seigneur nous éclairer quelque peu. Dans le passage de la Genèse, les traditions anciennes sont peu à peu délaissées pour mieux rendre compte de la finesse du texte d'origine, plutôt que de faire passer notre doctrine sur le mariage de l'homme et de la femme. Et pour vous aider à réfléchir et à relire ce texte, une piste d'analyse, d'écoute, est de parler de deux grandes parties. La première, où Dieu dit que l'homme, l'humain, le glébeux, ne peut pas vivre tout seul. Alors, il lui présente tous les autres animaux, tous les autres glébeux. Mais l'humain, dans sa recherche, ne trouve pas de correspondance à son attente. Et puis la deuxième partie, où Dieu fait l'ablation d'un côté entier du glébeux humain, parce que le mot « côté » ou « côte » qu'on utilise, c'est le même terme qu'on prend pour dire le côté du temple, le côté de la maison. Alors pourquoi le réduire à un simple petit morceau d'os? L'humain, lorsqu'il rencontre ce côté dont l'identité humaine est commune à lui, il le reconnaît comme totalement complémentaire à lui, au point de marquer la rupture d'avec les parents et la commune union voulue par Dieu, ou communion. Et je retiens pour aujourd'hui ce double cheminement avec les termes de la traduction de Chouraki. Dieu forme de la glèbe les animaux et les présente aux glébeux, qui les nomme. C'est-à-dire qu'il entre en relation avec eux afin de définir le rapport qu'il peut y avoir entre lui et eux, tous de la même nature terrestre d'origine, la même glèbe. Lui, le glébeux, et les autres glébeux, entre les créatures animales et humaines. Ils sont tous de la même origine. Dieu forme en animal ou bien en humain, selon son désir et sa volonté. Et ces glébeux doivent composer les uns avec les autres. Et dans un second temps, Dieu sépare l'humain glébeux en deux parties. Et l'une se découvre mâle et l'autre se découvre femelle. Et le glébeux mâle accueille le glébeux femelle comme son complément, son vis-à-vis, son aide contre lui. Ces deux temps doivent nous aider à reprendre nos rapports humains avec les animaux, d'une part, et aussi entre les hommes et les femmes. Ce que Jésus va faire avec les tenants de la loi et de la tradition d'une hiérarchie entre les humains. Car dans le passage de Marc, nous avons aussi deux temps. Celui où Jésus instruit les foules et corrige l'enseignement des pharisiens au sujet du divorce en resituant Moïse par rapport à Dieu. Et puis, celui où Jésus instruit les disciples et corrige leur comportement envers les enfants. Et nous remarquons d'une part la manière dont Marc estime que Jésus a cité les Écritures au sujet du commencement des relations entre l'homme et la femme. Il ne récite pas tout, les deux récits de la création, Genèse 1 et Genèse 2, mais seulement deux extraits sur la complémentarité masculine et féminine. Et il termine par son interprétation, à savoir qu'il y a une unité et non plus la dualité. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'humain ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. C'est assez radical comme affirmation. Et cela vient heurter nos sentiments, notre soif de liberté, aujourd'hui, mais autrefois aussi, vu la réaction des disciples. Et ces versets peuvent aussi être utilisés à ce moment-là sans amour, comme une arme en réponse aux aspects les plus intimes de nos vies. Et certaines églises ne se gênent pas de le faire, bloquant toute possibilité de recommencer d'autres relations sous la bénédiction de Dieu. Traditionnellement, seul un homme pouvait enclencher et autoriser un divorce, même si parfois on peut voir qu'il y a eu des femmes qui ont eu cette possibilité-là de le faire dans l'histoire. Et la grosse majorité des cultures humaines aujourd'hui, dans notre monde, gardent cette prérogative masculine. Pourtant, les paroles de Jésus aux disciples apportent une ouverture que les églises ont refusé d'entendre bien souvent, car elles placent la charge et la responsabilité autant sur celui ou celle qui initie concrètement une procédure de divorce. C'est un premier pas qui reçoit encore une ouverture avec ce qui va suivre dans la reprise en main des disciples. Car immédiatement après, les disciples entrent en action pour retenir ceux qui amènent des enfants, retenir d'approcher du maître Jésus, pour que Jésus leur donne un geste d'affection, les touche avec la main. Jésus s'en indigne et donne une leçon au sujet du royaume de Dieu. Les enfants, en général, connaissent l'image du royaume, sans pourtant y apporter tout ce que notre société en a fait, à savoir ce lieu de conflit permanent, de guerre, de conquête, où les plus forts écrasent et exploitent les plus faibles en établissant des règles à leur avantage. Jésus ne parle pas des royaumes de la terre, mais du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Et Jésus ne décrit pas non plus le royaume de Dieu comme devenant une propriété absolue pour ceux qui le reçoivent, comme des enfants. Mais plutôt que ceux qui sont comme des enfants entrent dans ce royaume. Autrement dit, le royaume de Dieu est formé de gens comme les enfants. C'est leur mode d'être et de vivre qui forge le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne peut donc se constituer ni avec des personnes figées dans le légalisme laïque ou religieux, comme les pharisiens, ni par des humains qui s'opposent dans leur divorce de toutes sortes, ni par des disciples qui refusent les gestes d'affection et d'accompagnement auprès de ceux qui le demandent. Car les enfants, peut-être au contraire des adultes, ne sont pas censés comprendre les lois ou les rites laïques ou religieux de leur société, même s'ils suivent l'exemple parental. On fait comme papa et maman, c'est normal. Mais ils sont prêts à changer complètement d'idée. Jésus demande aux disciples de retrouver ou de rester dans cette attitude de l'enfant pour que le royaume de Dieu advienne. D'où l'importance pour eux de changer de position, de changer d'avis, de se convertir encore. Et nous aussi, d'oser bouger de nos certitudes absolues, totalitaires. Ce sera leur fidélité, notre fidélité à la parole de Jésus, que d'interroger leur point de vue qui encourage les divorces ou les séparations, qui prône les distinctions absolues, pour trouver l'unité et l'amour partagé largement, comme une main tendue vers un enfant. C'est là que le royaume de Dieu commence. Amen.